Le cousin Ponce, dixième partie. Madame Cibot, dit le malheureux Ponce quand la portière revint. Sont-ils partis?
Qui
partis? Demanda-t-elle.
Ces hommes.
Quels hommes? Allons, vous avez vu des hommes, dit-elle. Vous venez d'avoir un coup de fièvre chaude, que sans moi vous alliez passer par la fenêtre, et vous me parlez encore d'hommes. Allez-vous rester toujours comme ça?
Comment, là, tout à l'heure, il n'y avait pas un monsieur qui s'est dit envoyé par ma famille?
Allez-vous m'ostiner encore? Reprit-elle. Ma foi, savez-vous où l'on devrait vous mettre? À Chalenton.
Vous voyez des hommes.
Élimagus, Rémonanque.
Ah, pour Rémonanque, vous pouvez l'avoir vu. Car il est venu me dire que mon pauvre Cibot va si mal que je vais vous planter là pour reverdir.
Mon Cibot avant tout, voyez-vous. Quand mon homme est malade, moi, je ne connais plus personne. Tâchez de rester tranquille et de dormir une couple d'heures, car j'ai dit d'envoyer chercher Monsieur Poulain, et je reviendrai avec lui. Buvez et soyez sage.
Il n'y avait personne dans ma chambre, là, tout à l'heure, quand je me suis éveillée?
Personne, dit-elle. Vous aurez vu Monsieur Rémonanque dans vos glaces.
Vous avez raison, Madame Cibot,
dit le malade en devenant doux comme un mouton. Eh bien, vous voilà raisonnable. Adieu, mon chérubin, restez tranquille. Je serai dans un instant à vous.
Quand Ponce entendit fermer la porte de l'appartement, il rassembla ses dernières forces pour se lever, car il se dit.
On me trompe, on me dévalise. Schmuck est un enfant qui se laisserait lier dans un sac.
Et le malade, animé par le désir d'éclaircir la scène affreuse qui lui semblait trop réelle pour être une vision, put gagner la porte de sa chambre. Il l'ouvrit péniblement et se trouva dans son salon, où la vue de ses chères toiles, de ses statues, de ses bronzes florentins, de ses porcelaines, le ranima. Le collectionneur, en robe de chambre, les jambes nues, la tête en feu, put faire le tour des deux rues qui se trouvaient tracées par les crédences et les armoires, dont la rangée partageait le salon en deux parties. Au premier coup d'œil du maître, il compta tout et aperçut son musée au complet. Il allait rentrer lorsque son regard fut attiré par un portrait de Greuze mis à la place du chevalier de Malte, de Sébastien del Piombo. Le soupçon sillonna son intelligence comme un éclair zèbre un ciel orageux. Il regarda la place occupée par ses 8 tableaux capitaux et les trouva remplacés tous. Les yeux du pauvre homme furent tout à coup couverts d'un voile noir. Il fut pris par une faiblesse et tomba sur le parquet. Cet évanouissement fut si complet que Ponce resta là pendant 2 heures. Il fut trouvé par Schmuck, quand l'Allemand, réveillé, sortit de sa chambre pour venir voir son ami. Schmuck eut 1000 peines à relever le moribond et à le recoucher. Mais quand il adressa la parole à ce quasi-cadavre et qu'il reçut un regard glacé, des paroles vagues et bégayées, le pauvre Allemand, au lieu de perdre la tête, devint un héros d'amitié. Sous la pression du désespoir, cet homme enfant eut de ces inspirations comme en ont les femmes aimantes ou les mères. Il fit chauffer des serviettes, il trouva des serviettes. Il sut en entortiller les mains de Ponce, il lui en mit au creux de l'estomac. Puis il prit ce front moite et froid entre ses mains. Il y appela la vie avec une puissance de volonté digne d'Apollonius de Tyane. Il baisa son ami sur les yeux comme ces maris que les grands sculpteurs italiens ont sculptés dans leur bas-relief appelé Pietà, baisant le Christ. Ces efforts divins, cette effusion d'une vie dans une autre, cette œuvre de mère et d'amante, fut couronnée d'un plein succès. Au bout d'une demi-heure, Ponce, réchauffé, reprit forme humaine. La couleur vitale revint aux yeux, la chaleur extérieure rappela le mouvement dans les organes. Schmucke fit boire à Ponce de l'eau de mélisse mêlée à du vin. L'esprit de la vie s'infusa dans ce corps, l'intelligence rayonna de nouveau sur ce front, naguère insensible comme une pierre. Ponce comprit alors à quel saint dévouement, à quelle puissance d'amitié cette résurrection était due.
« Sans toi, je mourrais !»
dit-il en se sentant le visage doucement baigné par les larmes du bon Allemand, qui riait et qui pleurait tout à la fois. En entendant cette parole, attendue dans le délire de l'espoir, qui vaut celui du désespoir, le pauvre Schmuck, dont toutes les forces étaient épuisées, s'affaissa comme un ballon crevé. Ce fut à son tour de tomber. Il se laissa aller sur un fauteuil, joignit les mains et remercia Dieu par une fervente prière. Un miracle venait pour lui de s'accomplir. Il ne croyait pas au pouvoir de sa prière en action, mais à celui de Dieu qu'il avait invoqué. Cependant, le miracle était un effet naturel et que les médecins ont constaté souvent. Un malade entouré d'affection, soigné par des gens intéressés à sa vie, à chance égale, est sauvé, là où succombe un sujet gardé par des mercenaires. Les médecins ne veulent pas voir en ceci les effets d'un magnétisme involontaire. Ils attribuent ce résultat à des soins intelligents, à l'exacte observation de leurs ordonnances. Mais beaucoup de mères connaissent la vertu de ces ardentes projections d'un constant désir.
« Mon bon Schmuck !»«
Ne parle pas,
que d'entendre par le cœur ! Rebose, rebose !»
dit le musicien en souriant.
« Pauvre ami, noble créature, enfant de Dieu vivant en Dieu, seul être qui m'est aimé !»
dit Ponce par interjection, en trouvant dans sa voix des modulations inconnues. « L'âme, près de s'envoler, était toute dans ces paroles qui donnèrent à Schmuck des jouissances presque égales à celles de l'amour.
« Fi, fi, je te viendrai un lion, je travaillerai pour te. »
« Écoute, mon bon et fidèle et adorable ami, laisse-moi parler. Le temps me presse, car je suis mort. Je ne reviendrai pas de ces crises répétées. »
Schmuck pleura comme un enfant.
« Écoute donc, tu pleureras après, » dit Ponce. « Chrétien, il faut te soumettre. On m'a volé, et c'est là si beau. Avant de te quitter, je dois t'éclairer sur les choses de la vie. Tu ne les sais pas. On a pris 8 tableaux qui valaient des sommes considérables.
« Pardonne-moi, je les ai fendus. »«
Toi ?»«
Moi, »
dit le pauvre Allemand.
« Nous étions assignés au tribunal. »«
Assignés ? Par qui ?»
Schmucke alla chercher le papier timbré laissé par l'huissier et l'apporta. Ponce lut attentivement ce grimoire. Après lecture, il laissa tomber le papier et garda le silence. Cet observateur du travail humain, qui jusqu'alors avait négligé le moral, finit par compter tous les fils de la trame ourdie par la cibot. Sa verve d'artiste, son intelligence d'élève de l'Académie de Rome, toute sa jeunesse lui revint pour quelques instants.
« Mon bon Schmuck, obéis-moi militairement. Écoute, descends à la loge et dis à cette affreuse femme que je voudrais revoir la personne qui m'est envoyée par mon cousin le président, et que si elle ne vient pas, j'ai l'intention de léguer ma collection au musée. Qu'il s'agit de faire mon testament. »
Schmuck s'acquitta de la commission. Mais, au premier mot, la Cibot répondit par un sourire.
« Notre cher malade a eu, mon bon monsieur Schmuck, une attaque de fièvre chaude, et il a cru voir du monde dans sa chambre. Je vous donne ma parole d'honnête femme que personne n'est venu de la part de la famille de notre cher malade. »
Schmuck revint avec cette réponse qu'il répéta textuellement à Ponce.
Elle est plus forte, plus madrée, plus astucieuse, plus machiavélique que je ne le croyais, dit Ponce en souriant. Elle ment jusque dans sa loge. Figure-toi qu'elle a ce matin amené ici un juif nommé Élimagus, Rémonenc et un troisième qui m'est inconnu, mais qui est plus affreux à lui seul que les deux autres. Elle a compté sur mon sommeil pour évaluer ma succession. Le hasard a fait que je me suis éveillée. Je les ai vus tous trois soupesant mes tabatières. Enfin, l'inconnu s'est dit envoyé par les Camusot. J'ai parlé avec lui. Cet infâme Cibot m'a soutenu que je rêvais. Mon bon Schmuck, je ne rêvais pas. J'ai bien entendu cet homme, il m'a parlé. Les deux marchands se sont effrayés et ont pris la porte. J'ai cru que la Cibot se démentirait. Cette tentative est inutile. Je vais tendre un autre piège où la scélérate se prendra. Mon pauvre ami, tu prends la Cibot pour un ange. C'est une femme qui m'a, depuis un mois, assassiné dans un but cupide. Je n'ai pas voulu croire à tant de méchanceté chez une femme qui nous avait servi fidèlement pendant quelques années. Ce doute m'a perdu. Combien t'a-t-on donné des 8 tableaux? 5 000 francs. Bon Dieu, ils en valaient 20 fois autant, s'écria Ponce. C'est la fleur de ma collection. Je n'ai pas le temps d'intenter un procès. D'ailleurs, ce serait te mettre en cause comme la dupe de ces coquins. Un procès te tuerait. Tu ne sais pas ce que c'est que la justice. C'est l'égout de toutes les infamies morales. Avoir tant d'horreur, des âmes comme la tienne y succombent. Et puis, tu seras assez riche. Ces tableaux m'ont coûté 4 000 francs. Je les ai depuis 36 ans. Mais nous avons été volés avec une habileté surprenante. Je suis sur le bord de ma fosse. Je ne me soucie plus que de toi. De toi, le meilleur des êtres. Or, je ne veux pas que tu sois dépouillé, car tout ce que je possède est à toi. Donc, il faut te défier de tout le monde, et tu n'as jamais eu de défiance. Dieu te protège, je le sais, mais il peut t'oublier pendant un moment, et tu serais flibusté comme un vaisseau marchand. La Cibot est un monstre, elle me tue, et tu vois en elle un ange. Je veux te la faire connaître. Va la prier de t'indiquer un notaire qui reçoive mon testament, et je te la montrerai les mains dans le sac. » Schmuke écoutait Ponce, comme s'il lui avait raconté l'Apocalypse. Qu'il existât une nature aussi perverse que devait être celle de la Cibot, si Ponce avait raison, c'était pour lui la négation de la Providence. « Mon pauvre ami Ponce se trouve si mal !» dit l'Allemand en descendant à la loge et s'adressant à Madame Cibot, qu'il veut faire son testament. Allez chercher un notaire. Ceci fut dit en présence de plusieurs personnes, car l'état de Cibot était presque désespéré. Rémonenc, sa sœur, 2 portières accourues des maisons voisines, 3 domestiques des locataires de la maison et le locataire du premier étage, sur le devant de la rue, stationnaient sous la porte cochère. Ah, vous pouvez bien aller chercher un notaire vous-même, s'écria la Cibot les larmes aux yeux, et faire votre testament par qui vous voudrez. Ce n'est pas quand mon pauvre Cibot est à la mort que je quitterai son lit. Je donnerai tous les ponces du monde pour conserver Cibot, un homme qui ne m'a jamais causé pour 2 onces de chagrin pendant 30 ans de ménage. Et elle rentra, laissant Schmuke tout interdit. Monsieur, dit à Schmuke le locataire du premier étage, « Monsieur Ponce est-il donc bien mal ?» Ce locataire, nommé Jolivard, était un employé de l'enregistrement au bureau du palais. « Il a failli mourir tout à l'heure !» répondit Schmuke avec une profonde douleur. « Il y a près d'ici, rue Saint-Louis, Monsieur Trognon, notaire, » fit observer Monsieur Jolivard. « C'est le notaire du quartier. »«
Voulez-vous que j'aille le chercher ?»
demanda Rémonenc à Schmuke.
Bien volontiers, répondit Schmuke, car si Madame Cibot ne peut pas carter mon ami, je ne fifferai pas le carter étant l'état où il est.
Madame Cibot nous disait qu'il devenait fou, reprit Jolivard.
Ponce, fou ! S'écria Schmuke frappé de terreur. Jamais il n'a eu tant d'esprit, et c'est ce qui m'inquiète pour sa santé.
Toutes les personnes qui composaient l'attroupement
écoutaient cette conversation avec une curiosité bien naturelle et qui la grava dans leur mémoire. Schmuck, qui ne connaissait pas Fraisier, ne put faire attention à cette tête satanique et à ses yeux brillants. Fraisier, en jetant deux mots dans l'oreille de la Cibot, avait été l'auteur de la scène hardie, peut-être au-dessus des moyens de la Cibot, mais qu'elle avait joué avec une supériorité magistrale. Faire passer le moribond pour fou, c'était une des pierres angulaires de l'édifice bâti par l'homme de loi. L'incident de la matinée avait bien servi Fraisier, et sans lui, peut-être la Cibot, dans son trouble, se serait-elle démentie au moment où l'innocent Schmuck était venu lui tendre un piège en la priant de rappeler l'envoyé de la famille. Remonenc, qui vit venir le docteur Poulain, ne demandait pas mieux que de disparaître. Et voici pourquoi. Remonenc, depuis 10 jours, remplissait le rôle de la Providence, ce qui déplaît singulièrement à la justice, dont la prétention est de la représenter à elle seule. Remonenc voulait se débarrasser à tout prix du seul obstacle qui s'opposait à son bonheur. Pour lui, le bonheur, c'était d'épouser l'appétissante portière et de tripler ses capitaux. Or, Remonenc, en voyant le petit tailleur buvant de la tisane, avait eu l'idée de convertir son indisposition en une maladie mortelle, et son état de ferrailleur lui en avait donné le moyen. Un matin, pendant qu'il fumait sa pipe, le dos appuyé au chambranle de la porte de sa boutique, et qu'il rêvait à ce beau magasin sur le boulevard de la Madeleine où trônerait Madame Cibot, superbement vêtue, ses yeux tombèrent sur une rondelle en cuivre fortement oxydée. L'idée de nettoyer économiquement sa rondelle dans la tisane de Cibot lui vint subitement. Il attacha ce cuivre, rond comme une pièce de 100 sous, par une petite ficelle. Et pendant que la Cibot était occupée chez ces messieurs, il allait tous les jours savoir des nouvelles de son ami le tailleur. Durant cette visite de quelques minutes, il laissait tremper la rondelle en cuivre, et en s'en allant, il la reprenait par la ficelle. Cette légère addition de cuivre chargé de son oxyde, communément appelé vert-de-gris, introduisit secrètement un principe délétère dans la tisane bienfaisante, mais en proportion homéopathique, ce qui fit des ravages incalculables. Voici quels furent les résultats de cette homéopathie criminelle. Le 3e jour, les cheveux du pauvre Cibot tombèrent, les dents tremblèrent dans leurs alvéoles, et l'économie de cette organisation fut troublée par cette imperceptible dose de poison. Le docteur Poulain se creusa la tête en apercevant l'effet de cette décoction, car il était assez savant pour reconnaître l'action d'un agent destructeur. Il emporta la tisane, à l'insu de tout le monde, et il en opéra l'analyse lui-même. Mais il n'y trouva rien. Le hasard voulut que ce jour-là, Remonenc, effrayé de ses œuvres, n'eût pas mis sa fatale rondelle. Le docteur Poulain s'en tira vis-à-vis de lui-même et de la science en supposant que, par suite d'une vie sédentaire dans une loge humide, le sang de ce tailleur accroupi sur une table devant cette fenêtre grillagée avait pu se décomposer faute d'exercice et surtout à la perpétuelle aspiration des émanations d'un ruisseau fétide. La rue de Normandie est une de ces vieilles rues à chaussées fendues où la ville de Paris n'a pas encore mis de bornes fontaines et dont le ruisseau noir roule péniblement les eaux ménagères de toutes les maisons, qui s'infiltrent sous les pavés et y produisent cette boue particulière à la ville de Paris. La Cibot, elle, allait et venait, tandis que son mari, travailleur intrépide, était toujours devant cette croisée, assis comme un fakir. Les genoux du tailleur étaient ankylosés, le sang se fixait dans le buste, les jambes amaigries, tortues, devenaient des membres presque inutiles. Aussi, le teint fortement cuivré de Cibot paraissait-il naturellement maladif depuis fort longtemps. La bonne santé de la femme et la maladie de l'homme semblèrent au docteur un fait naturel. « Quelle est donc la maladie de mon pauvre Cibot ?» avait demandé la portière au docteur Poulain. « Ma chère madame Cibot, répondit le docteur,
Il meurt de la maladie des portiers. Son étiolement général annonce une incurable viciation du sang. Un crime sans objet, sans aucun gain, sans aucun intérêt, finit par effacer dans l'esprit du docteur Poulain ses premiers soupçons. Qui pouvait vouloir tuer Cibot? Sa femme? Le docteur lui vit goûter à la tisane de Cibot en la sucrant. Une assez grande quantité de crimes échappent à la vengeance de la société. C'est en général ceux qui se commettent, comme celui-ci, sans les preuves effrayantes d'une violence quelconque. Le sang répandu, la strangulation, les coups, enfin les procédés maladroits. Mais surtout quand le meurtrier est sans intérêt apparent et commis dans les classes inférieures. Le crime est toujours dénoncé par son avant-garde, par des haines, par des cupidités visibles dont sont instruits les gens aux yeux de qui l'on vit. Mais dans les circonstances où se trouvaient le petit tailleur, Rémonenc et la Cibot, personne n'avait intérêt à chercher la cause de la mort, excepté le médecin. Ce portier maladif, cuivré, sans fortune, adoré de sa femme, était sans fortune et sans ennemi. Les motifs et la passion du brocanteur se cachaient dans l'ombre tout aussi bien que la fortune de la Cibot. Le médecin connaissait à fond la portière et ses sentiments. Il la croyait capable de tourmenter Ponce, mais il la savait sans intérêt ni force pour un crime. D'ailleurs, elle buvait une cuillerée de tisane toutes les fois que le docteur venait et qu'elle donnait à boire à son mari. Poulain, le seul de qui pouvait venir la lumière, crut à quelque hasard de maladie, à l'une de ces étonnantes exceptions qui rendent la médecine un si périlleux métier. Et en effet, le petit tailleur se trouva malheureusement, par suite de son existence rabougrie, dans des conditions de mauvaise santé telles que cette imperceptible addition d'oxyde de cuivre devait lui donner la mort. Les commères, les voisins, se comportaient aussi de manière à innocenter Rémonenc en justifiant cette mort subite. « Ah ! » s'écriait l'un. « Il y a bien longtemps que je disais que M. Cibot n'allait pas bien. » « Il travaillait trop, cet homme-là, » répondait un autre. « Il s'est brûlé le sang. »« Il ne voulait pas m'écouter, » s'écriait un voisin. « Je lui conseillais de se promener le dimanche, de faire le lundi, car ce n'est pas trop de 2 jours par semaine pour se divertir. » Enfin, la rumeur du quartier, si délatrice, et que la justice écoute par les oreilles du commissaire de police, ce roi de la basse classe, expliquait parfaitement la mort du petit tailleur. Néanmoins, l'air pensif, les yeux inquiets de M. Poulain, embarrassaient beaucoup Rémonenc. Aussi, voyant venir le docteur, se proposa-t-il avec empressement à Schmuck pour aller chercher ce M. Trognon que connaissait Fraisier. « Je serai revenu pour le moment où le testament se fera, » dit Fraisier à l'oreille de la Cibot. « Et malgré votre douleur, il faut veiller au grain. » Le petit avoué, qui disparut avec la légèreté d'une ombre, rencontra son ami le médecin. « Hé, Poulain ! » s'écria-t-il. « Tout va bien, nous sommes sauvés. Je te dirai ce soir comment. Cherche quelle est la place qui te convient. Tu l'auras. Et moi, je suis juge de paix. Ta baronne me refusera plus sa fille. Quant à toi, je me charge de te faire épouser Mademoiselle Vitel, la petite fille de notre juge de paix. » Fraisier laissa Poulain sur la stupéfaction que ces folles paroles lui causèrent, et sauta sur le boulevard comme une balle. Il fit signe à l'omnibus et fut, en 10 minutes, déposé par ce coche moderne à la hauteur de la rue de Choiseul. Il était environ 4 heures. Fraisier était sûr de trouver la présidente seule, car les magistrats ne quittent guère le palais avant 5 heures. Madame de Marville reçut Fraisier avec une distinction qui prouvait que, selon sa promesse faite à Madame Vatinelle, M. Leboeuf avait parlé favorablement de l'ancien avoué de Mantes. Amélie fut presque chatte avec Fraisier, comme la duchesse de Montpensier dut l'être avec Jacques Clément. Car ce petit avoué, c'était son couteau. Mais quand Fraisier présenta la lettre collective,
par laquelle Élie Magus et Rémoninck s'engageaient à prendre en bloc la collection de Pons pour une somme de 900 000 francs payés comptant, la présidente lança sur l'homme d'affaires un regard d'où jaillissait la somme. Ce fut une nappe de convoitise qui roula jusqu'à l'avoué. « Monsieur le président, lui dit-elle, m'a chargé de vous inviter à dîner demain. Nous serons en famille. Vous aurez pour convive monsieur Godéchal, le successeur de maître Desroches, mon avoué, puis Berthier, notre notaire, mon gendre et ma fille. Après le dîner, nous aurons vous et moi, le notaire et l'avoué, la petite conférence que vous avez demandée, et où je vous remettrai nos pouvoirs. Ces deux messieurs obéiront, comme vous l'exigez, à vos inspirations, et veilleront à ce que tout cela se passe bien. Vous aurez la procuration de monsieur de Marville dès qu'elle vous sera nécessaire.
Il me la faudra pour le jour du décès.
On la tiendra prête.
Madame la présidente, si je demande une procuration, si je veux que votre avoué ne paraisse pas, c'est bien moins dans mon intérêt que dans le vôtre. Quand je me donne, moi, je me donne tout entier. Aussi, madame, demandais-je en retour la même fidélité, la même confiance à mes protecteurs. Je n'ose dire de vous, mes clients. Vous pouvez croire qu'en agissant ainsi, je veux m'accrocher à l'affaire. Non, non, madame, s'il se commettait des choses répréhensibles, car en matière de succession, on est entraîné, surtout par un poids de 900 000 francs. Eh bien, vous ne pouvez pas désavouer un homme comme maître Godéchal, la probité même, mais on peut rejeter tout sur le dos d'un méchant petit homme d'affaires. »
La présidente regarda Fraisier avec admiration. « Vous devez aller bien haut ou bien bas, lui dit-elle. À votre place, au lieu d'ambitionner cette retraite de juge des paix, je voudrais être procureur du roi, à Mantes, et faire un grand chemin. »
« Laissez-moi faire, madame. La justice de paix est un cheval de curé pour monsieur Vitel. Je m'en ferai un cheval de bataille. »
La présidente fut amenée ainsi à sa dernière confidence avec Fraisier.
« Vous me paraissez dévouée si complètement à nos intérêts, dit-elle, que je vais vous initier aux difficultés de notre position et à nos espérances. » Le président, lors du mariage projeté pour sa fille et un intrigant qui depuis s'est fait banquier, désirait vivement augmenter la terre de Marville de plusieurs herbages, alors à vendre. Nous nous sommes dessaisis de cette magnifique habitation pour marier ma fille, comme vous savez. Mais je souhaite bien vivement, ma fille étant fille unique, acquérir le reste de ces herbages. Ces belles prairies ont été vendues en partie. Elles appartiennent à un Anglais qui retourne en Angleterre après avoir demeuré là pendant 20 ans. Il a bâti le plus charmant cottage dans une délicieuse situation, entre le parc de Marville et les prés qui dépendaient autrefois de la terre. Et il a racheté, pour se faire un parc, des remises, des petits bois, des jardins, à des prix fous. Cette habitation, avec ses dépendances, forme fabrique dans le paysage, et elle est contiguë au mur du parc de ma fille. On pourrait avoir les herbages et l'habitation pour 700 000 francs, car le produit net des prêts est de 20 000 francs. Mais si monsieur Wadman apprend que c'est nous qui achetons, il voudra sans doute 200 ou 300 000 francs de plus, car il les perd, si, comme cela se fait en matière rurale, on ne compte l'habitation pour rien.
« Mais, madame, vous pouvez, selon moi, si bien regarder la succession comme à vous, que je m'offre à jouer le rôle d'acquéreur à votre profit, et je me charge de vous avoir la terre au meilleur marché possible, par un sous-saint privé, comme cela se fait pour les marchands de biens. Je me présenterai à l'Anglais en cette qualité. Je connais ces affaires-là. C'était à Mantes ma spécialité. Vatinel avait doublé la valeur de son étude, car je travaillais sous son nom.
De là votre liaison avec la petite madame Vatinel.
Ce notaire doit être bien riche aujourd'hui.
Mais madame Vatinel dépense beaucoup.
Ainsi soyez tranquille, madame. Je vous servirai l'anglais
cuit à point. Si vous arriviez à ce résultat, vous auriez des droits éternels à ma reconnaissance. Adieu, mon cher monsieur Fraisier. À demain. »
Fraisier sortit en saluant la présidente avec moins de servilité que la dernière fois.
« Je dîne demain chez le président Marville, » se disait Fraisier. « Allons, je tiens ces gens-là. Seulement, pour être maître absolu de l'affaire, il faudrait que je fusse le conseil de cet Allemand, dans la personne de Tabarot, l'huissier de la justice de paix. Ce Tabarot qui me refuse sa fille, une fille unique, me la donnera si je suis juge de paix. Mademoiselle Tabarot, cette grande fille rousse et poitrinaire, est propriétaire du chef de sa mère d'une maison à la place royale. Je serai donc éligible. À la mort de son père, elle aura bien encore 6 000 livres de rente. Elle n'est pas belle, mais mon Dieu, pour passer de 0 à 18 000 francs de rente, il ne faut pas regarder à la planche. »
Et en revenant par les boulevards à la rue de Normandie, il se laissait aller au cours de ce rêve d'or. Il se laissait aller au bonheur d'être à jamais hors du besoin. Il pensait à marier Mademoiselle Vitel, la fille du juge de paix, à son ami Poulain. Il se voyait, de concert avec le docteur, un des rois du quartier. Il dominerait les élections municipales, militaires et politiques. Les boulevards paraissent courts lorsqu'en s'y promenant, on promène ainsi son ambition à cheval sur la fantaisie. Lorsque Schmuck remonta près de son ami Ponce, il lui dit que Cibot était mourant et que Rémonenc était allé chercher M. Trognon, notaire. Ponce fut frappé de ce nom que la Cibot lui jetait si souvent dans ses interminables discours, en lui recommandant ce notaire comme la probité même. Et alors le malade, dont la défiance était devenue absolue depuis le matin, eut une idée lumineuse qui compléta le plan formé par lui pour se jouer de la Cibot et la dévoiler tout entière au crédule Schmuck. « Schmuck, » dit-il en prenant la main au pauvre Allemand hébété par tant de nouvelles et d'événements. Il doit régner une grande confusion dans la maison. Si le portier est à la mort, nous sommes à peu près libres pour quelques moments, c'est-à-dire sans espion, car on nous espionne, sois-en sûr. Sors, prends un cabriolet, va au théâtre. Dis à Mademoiselle Héloïse, notre première danseuse, que je veux la voir avant de mourir et qu'elle vienne à 10h30 après son service. De là, tu iras chez tes deux amis, Schwab et Brunner, et tu les prieras d'être ici demain à 9h du matin, de venir demander de mes nouvelles, en ayant l'air de passer par ici et de monter me voir. » Voici quel était le plan forgé par le vieil artiste en se sentant mourir. Il voulait enrichir Schmuck en l'instituant son héritier universel. Et, pour le soustraire à toutes les chicanes possibles, il se proposait de dicter son testament à un notaire en présence de témoins, afin qu'on ne supposât pas qu'il n'avait plus sa raison, et pour ôter au Camusot tout prétexte d'attaquer ses dernières dispositions. Ce nom de Trognon lui fit entrevoir quelques machinations. Il crut à quelque vice de forme projeté par avance, à quelque infidélité préméditée par la Cibot, et il résolut de se servir de ce Trognon pour se faire dicter un testament holographe qu'il cacheterait et serrerait dans le tiroir de sa commode. Il comptait montrer à Schmuck, en le faisant cacher dans un des cabinets de son alcôve, la Cibot s'emparant de ce testament, le décachetant, le lisant et le recachetant. Puis le lendemain à 9h, il voulait anéantir ce testament holographe par un testament par-devant notaire, bien en règle et indiscutable. Quand la Cibot l'avait traité de fou, de visionnaire, il avait reconnu la haine et la vengeance, l'avidité de la présidente. Car, au lit depuis 2 mois, le pauvre homme, pendant ses insomnies, pendant ses longues heures de solitude, avait repassé les événements de sa vie au crible. Les sculpteurs antiques et modernes ont souvent posé, de chaque côté de la tombe, des génies qui tiennent des torches allumées. ces lueurs éclairent au mourant le tableau de leurs fautes, de leurs erreurs, en leur éclairant les chemins de la mort. La sculpture représente là de grandes idées, elle formule un fait humain. L'agonie a sa sagesse. Souvent on voit de simples jeunes filles, à l'âge le plus tendre, avoir une raison centenaire, devenir prophètes, juger leur famille, n'être les dupes d'aucune comédie. C'est là la poésie de la mort. Mais, chose étrange et digne de remarque, on meurt de deux façons différentes. Cette poésie de la prophétie, ce don de bien voir, soit en avant, soit en arrière, n'appartient qu'aux mourants, dont la chair seulement est atteinte, qui périssent par la destruction des organes de la vie charnelle. Ainsi, les êtres attaqués, comme Louis XIV par la gangrène, les poitrinaires, les malades qui périssent comme Ponce par la fièvre, comme Madame de Mortsauf par l'estomac, ou comme les soldats par des blessures qui les saisissent en pleine vie. Ceux-là jouissent de cette lucidité sublime et font des morts surprenantes, admirables. Tandis que les gens qui meurent par des maladies, pour ainsi dire, intelligentielles, dans le mal et dans le cerveau, dans l'appareil nerveux qui sert d'intermédiaire au corps pour fournir le combustible de la pensée. Ceux-là meurent tout entiers. Chez eux, l'esprit et le corps sombrent à la fois. Les uns, âme sans corps, réalisent les spectres bibliques, les autres sont des cadavres. Cet homme vierge, ce caton friand, ce juste presque sans péché, pénétra tardivement dans les poches de fiel qui composaient le cœur de la présidente. Il devina le monde sur le point de le quitter. Aussi, depuis quelques heures, avait-il pris gaiement son parti, comme un joyeux artiste pour qui tout est prétexte à charge, à raillerie. Les derniers liens qui l'unissaient à la vie, les chaînes de l'admiration, les nœuds puissants qui rattachaient le connaisseur au chef-d'œuvre de l'art, venaient d'être brisés le matin. En se voyant voler par la Cibot, Ponce avait dit adieu chrétiennement aux pompes et aux vanités de l'art, à sa collection, à ses amitiés pour les créateurs de tant de belles choses. Et il voulait uniquement penser à la mort, à la façon de nos ancêtres, qu'il a comptée comme une défaite du chrétien. Dans sa tendresse pour Schmuck, Ponce essayait de le protéger du fond de son cercueil. Cette pensée paternelle fut la raison du choix qu'il fit du premier sujet de la danse pour avoir du secours contre les perfidies qui l'entouraient et qui ne pardonneraient sans doute pas à son légataire universel. Héloïse Bristoux était une de ces créatures qui restent vraies dans une position fausse, capable de toutes les plaisanteries possibles contre des adorateurs paysans. Une fille de l'école des Jenny Cadine et des Josepha. Mais bonne camarade, et ne redoutant aucun pouvoir humain, à force de les voir tous faibles, et habituée qu'elle était à lutter avec les sergents de ville, au bal peu champêtre, de Mabille et au carnaval. Si elle a fait donner ma place à son protégé Garangeau, elle se croira d'autant plus obligée de me servir, se dit Ponce. Schmuck put sortir sans qu'on fît attention à lui, dans la confusion qui régnait dans la loge. Et il revint avec la plus excessive rapidité, pour ne pas laisser trop longtemps Ponce tout seul. Monsieur Trognon arriva pour le testament en même temps que Schmuck. Quoique Cibot fût à la mort, sa femme accompagna le notaire, l'introduisit dans la chambre à coucher et se retira d'elle-même, en laissant ensemble Schmuck, Monsieur Trognon et Ponce. Mais elle s'arma d'une petite glace à main d'un travail curieux et prit position à la porte, qu'elle laissa entrebâillée. Elle pouvait ainsi non seulement entendre, mais voir tout ce qui se dirait et ce qui se passerait dans ce moment suprême pour elle. « Monsieur, dit Ponce, j'ai malheureusement toutes mes facultés, car je sens que je vais mourir. Et par la volonté de Dieu, sans doute, aucune des souffrances de la mort ne m'est épargnée. Voici Monsieur Schmuck. » Le notaire salua Schmuck. « C'est le seul ami que j'ai sur la terre, dit Ponce, et je veux l'instituer mon légataire universel.
dites-moi quelle forme doit avoir mon testament, pour que mon ami, qui est allemand, qui ne sait rien de nos lois, puisse recueillir ma succession sans aucune contestation. »
« On peut toujours tout contester, monsieur, » dit le notaire. « C'est l'inconvénient de la justice humaine. Mais en matière de testament, il en est d'inattaquable. »
« Lequel ? » demanda Ponce. « Un testament fait par devant notaire, en présence de témoins qui certifient que le testateur jouit de toutes ses facultés. Et si le testateur n'a ni femme, ni enfant, ni père, ni frère,
je n'ai rien de tout cela. Toutes mes affections sont réunies sur la tête de mon cher ami Schmuck, que voici. »
Schmuck pleurait. Si donc vous n'avez que des collatéraux éloignés, la loi vous laissant la libre disposition de vos meubles et immeubles, si vous ne les léguez pas à des conditions que la morale réprouve, car vous avez dû voir des testaments attaqués à cause de la bizarrerie des testateurs, un testament par devant notaire est inattaquable. En effet, l'identité de la personne ne peut être niée. Le notaire a constaté l'état de sa raison, et la signature ne peut donner lieu à aucune discussion. Néanmoins, un testament holographe, en bonne forme et clair, est aussi peu discutable.
Je me décide, pour des raisons à moi connues, à écrire sous votre dictée un testament holographe et à le confier à mon ami que voici. « Cela se peut-il ?»«
Très bien, » dit le notaire. « Voulez-vous écrire ? Je vais dicter. »«
Schmuck, donne-moi ma petite écritoire de boule. »«
Monsieur, dictez-moi tout bas. »«
Car, » ajouta-t-il, « on peut nous écouter. »«
Dites-moi donc avant tout quelles sont vos intentions, » demanda le notaire. Au bout de 10 minutes, la Cibot, que Ponce entrevoyait dans une glace, vit cacheter le testament après que le notaire l'eut examiné pendant que Schmuck allumait une bougie. Puis Ponce le remit à Schmuck en lui disant de le serrer dans une cachette pratiquée dans son secrétaire. Le testateur demanda la clé du secrétaire, l'attacha dans le coin de son mouchoir et mit le mouchoir sous son oreiller. Le notaire, nommé par politesse exécuteur testamentaire et à qui Ponce laissait un tableau de prix, une de ces choses que la loi permet de donner à un notaire, sortit et trouva Madame Cibot dans le salon.
« Eh bien, monsieur, monsieur Ponce a-t-il pensé à moi ?»«
Vous ne vous attendez pas, ma chère, à ce qu'un notaire trahisse les secrets qui lui seront confiés, » répondit Monsieur Trognon. « Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y aura bien des cupidités déjouées et bien des espérances trompées. Monsieur Ponce a fait un beau testament plein de sens, un testament patriotique, et que j'approuve fort. »
On ne se figure pas à quel degré de curiosité la Cibot arriva, stimulée par de telles paroles. Elle descendit et passa la nuit près de Cibot, en se promettant de se faire remplacer par Mademoiselle Rémonenque et d'aller lire le testament entre 2 et 3 heures du matin. La visite de Mademoiselle Héloïse Bristou, à 10h30 du soir, parut assez naturelle à la Cibot. Mais elle eut si peur que la danseuse ne parlât des 1000 francs donnés par Gaudissart qu'elle accompagna le premier sujet en lui prodiguant des politesses et des flatteries comme à une souveraine.
« Ah, ma chère, vous êtes bien mieux sur votre terrain qu'au théâtre !» dit Héloïse en montant l'escalier. « Je vous engage à rester dans votre emploi. »
Héloïse, amenée en voiture par Bixiou, son amie de cœur, était magnifiquement habillée, car elle allait à une soirée de Mariette, l'un des plus illustres premiers sujets de l'opéra. Monsieur Chapoulot, ancien passementier de la rue Saint-Denis, le locataire du premier étage, qui revenait de l'ambigu comique avec sa fille, fut ébloui, lui comme sa femme, en rencontrant pareille toilette et une si jolie créature dans leur escalier.
« Qui est-ce, Madame Cibot ?» demanda Madame Chapoulot.
« C'est une rien du tout, une sauteuse qu'on peut voir quasi nue tous les soirs pour 40 sous, » répondit la portière à l'oreille de l'ancienne passementière.
« Victorine !» dit Madame Chapoulot à sa fille. « Ma petite, laisse passer Madame !»
Ce cri de mère épouvantée fut compris d'Héloïse, qui se retourna. « Votre fille est donc pire que l'amadou, madame, que vous craignez qu'elle ne s'incendie en me touchant ?»
Héloïse regarda M. Chapoulot d'un air agréable en souriant. « Elle est, ma foi, très jolie à la ville, » dit M. Chapoulot en restant sur le palier.
Madame Chapoulot pinça son mari à le faire crier et le poussa dans l'appartement.
« En voilà !» dit Héloïse. « Un second qui s'est donné le genre d'être un quatrième. »«
Mademoiselle est cependant habituée à monter ?» dit la Cibot en ouvrant la porte de l'appartement.
« Eh bien, mon vieux !»
dit Héloïse en entrant dans la chambre où elle vit le pauvre musicien étendu, pâle et la face appauvrie.
« Ça ne va donc pas bien ? Tout le monde au théâtre s'inquiète de vous.
Mais vous savez... « Quoi qu'on ait bon cœur, chacun a ses affaires, et on ne trouve pas une heure pour aller voir ses amis. Gaudissart parle de venir ici tous les jours, et tous les matins il est pris par les ennuis de l'administration. Néanmoins, nous vous aimons tous. »«
Madame Cibot, dit le malade, faites-moi le plaisir de nous laisser avec mademoiselle. Nous avons à causer théâtre et de ma place de chef d'orchestre. « Schmuck reconduira bien madame. »
Schmuck, sur un signe de ponce, mit la Cibot à la porte et tira les verrous.
« Ah, le gredin d'Allemand, voilà qu'il se gâte aussi, lui !»
se dit la Cibot en entendant ce bruit significatif.
« C'est Monsieur Ponce qui lui apprend ces horreurs-là.
Mais vous me payerez cela, mes petits amis !» se dit la Cibot en descendant.
« Bah, si cette saltimbanque de sauteuse lui parle des 1000 francs, je leur dirai que c'est une farce de théâtre. »
Et elle s'assit au chevet de Cibot, qui se plaignait d'avoir le feu dans l'estomac, car Remonenc venait de lui donner à boire en l'absence de sa femme.
« Ma chère enfant, » dit Ponce à la danseuse, pendant que Schmuck renvoyait la Cibot.
Je ne me fie qu'à vous pour me choisir un notaire honnête homme qui vienne recevoir demain matin, à 9h30 précise, mon testament. Je veux laisser toute ma fortune à mon ami Schmuck. Si ce pauvre Allemand était l'objet de persécutions, je compte sur ce notaire pour le conseiller, pour le défendre. Voilà pourquoi je désire un notaire considéré, très riche, au-dessus des considérations qui font fléchir les gens de loi. Car mon pauvre légataire doit trouver un appui en lui. Je me défie de Berthier, successeur de Cardot, et vous qui connaissez tant de monde.
Hé, j'ai ton affaire, dit la danseuse. Le notaire de Florine, de la comtesse du Bruel, Léopold Hannequin, un homme vertueux qui ne sait pas ce qu'est une lorette. C'est comme un père de hasard, un brave homme qui vous empêche de faire des bêtises avec l'argent qu'on gagne. Je l'appelle le père Aura, car il a inculqué des principes d'économie à toutes mes amies. D'abord, il a, mon cher, 60 000 francs de rente, outre son étude. Puis, il est notaire comme on était notaire autrefois. Il est notaire quand il marche, quand il dort. Il a dû ne faire que de petits notaires et de petites notaresses. Enfin, c'est un homme lourd et pédant, mais c'est un homme à ne fléchir devant aucune puissance quand il est dans ses fonctions. Il n'a jamais eu de voleuse. C'est père de famille fossile, et c'est adoré de sa femme, qui ne le trompe pas, quoique femme de notaire. Que veux-tu? Il n'y a pas mieux dans Paris, en fait, de notaire. C'est patriarche. Ça n'est pas drôle et amusant comme était Cardot avec Malaga. Mais ça ne lèvera jamais le pied comme le petit chose qui vivait avec Antonia. J'enverrai mon homme demain matin à 8 heures. Tu peux dormir tranquillement. D'abord, j'espère que tu guériras et que tu nous feras encore de jolies musiques. Mais après tout, vois-tu, la vie est bien triste. Les entrepreneurs chipotent, les rois carottent, les ministres tripotent, les gens riches économisotent. Les artistes n'ont plus de ça. Dit-elle en se frappant le cœur. « C'est un temps à mourir. Adieu, vieux. »
« Je te demande avant tout, Héloïse, la plus grande discrétion. »«
Ce n'est pas une affaire de théâtre, » dit-elle. « C'est sacré, ça, pour une artiste. »
Quel est ton monsieur, ma petite ?
Le maire de ton arrondissement, monsieur Baudoyer, un homme aussi bête que feu Crevel.
Car tu sais, Crevel, un des anciens commanditaires de Gaudissart, il est mort il y a quelques jours, et il ne m'a rien laissé, pas même un pot de pommade. C'est ce qui me fait te dire que notre siècle est dégoûtant.
Et de quoi est-il mort ?
De sa femme. S'il était resté avec moi, il vivrait encore.
Adieu, mon bon vieux. Je te parle de crevaison, parce que je te vois dans 15 jours d'ici te promenant sur le boulevard, effleurant de jolies petites curiosités. Car tu n'es pas malade. Tu as les yeux plus vifs que je ne te les ai jamais vus.
Et la danseuse s'en alla, sûre que son protégé Garangeau tenait pour toujours le bâton de chef d'orchestre. Garangeau était son cousin Germain. Toutes les portes étaient entrebâillées, et tous les ménages sur pied regardèrent passer le premier sujet. Ce fut un événement dans la maison. Fraisier, semblable à ces bulldogs qui ne lâchent pas le morceau où ils ont mis la dent, stationnait dans la loge auprès de la Cibot, quand la danseuse passa sous la porte cochère et demanda le cordon. Il savait que le testament était fait. Il venait sonder les dispositions de la portière. Car maître Trognon, notaire, avait refusé de dire un mot sur le testament, tout aussi bien à Fraisier qu'à madame Cibot. Naturellement, l'homme de loi regarda la danseuse et se promit de tirer parti de cette visite in extremis.
« Ma chère madame Cibot, dit Fraisier, « voici pour vous le moment critique. »«
Ah oui, dit-elle, mon pauvre Cibot, quand je pense qu'il ne jouira pas de ce que je pourrais avoir. »«
Il s'agit de savoir si monsieur Ponce vous a légué quelque chose, enfin si vous êtes sur le testament ou si vous êtes oublié, »
dit Fraisier en continuant. « Je représente les héritiers naturels, et vous n'aurez rien que deux dans tous les cas. Le testament est holographe. » Il est par conséquent très vulnérable. Savez-vous où notre homme l'a mis ?
Dans une cachette du secrétaire, et il en a pris la clé, répondit-elle.
Il l'a noué au coin de son mouchoir, et il a serré le mouchoir sous son oreiller. J'ai tout vu.
Le testament est-il cacheté ?
Hélas, oui.
C'est un crime que de soustraire un testament et de le supprimer. Mais ce n'est qu'un délit de le regarder. Et dans tous les cas, qu'est-ce que c'est ? Des peccadilles qui n'ont pas de témoins. A-t-il le sommeil dur, notre homme ?
Oui, mais quand vous avez voulu tout examiner et tout évaluer, il devait dormir comme un sabot et il s'est réveillé.
Cependant, je vais voir. Ce matin, j'irai relever monsieur Schmuck sur les 4 heures du matin. Et si vous voulez venir, vous aurez le testament à vous pendant 10 minutes.
Eh bien, c'est entendu. Je me lèverai sur les 4 heures. Et je frapperai tout doucement.
Mademoiselle Rémonanque, qui me remplacera près de Cibot, sera prévenue et tirera le cordon. Mais frappez à la fenêtre pour n'éveiller personne.
C'est entendu, dit Fraisier. Vous aurez de la lumière, n'est-ce pas ? Une bougie, cela me suffira.
À minuit, le pauvre Allemand, assis dans un fauteuil, navré de douleur, contemplait Ponce, dont la figure crispée, comme l'est celle d'un moribond, s'affaissait, après tant de fatigue, à faire croire qu'il allait expirer.
« Je pense que j'ai juste assez de force pour aller jusqu'à demain soir, » dit Ponce avec philosophie. « Mon agonie viendra, sans doute, mon pauvre Schmuck, dans la nuit de demain. Dès que le notaire et tes deux amis seront partis, tu iras chercher notre bon abbé du Planty, le vicaire de l'église Saint-François. Ce digne homme ne me sait pas malade, et je veux recevoir les saints sacrements demain, à midi. »
Il fit une longue pause.
Dieu n'a pas voulu que la vie fût pour moi comme je la rêvais, reprit Ponce. J'aurais tant aimé une femme, des enfants, une famille. Être chéri de quelques êtres, dans un coin, était toute mon ambition. La vie est amère pour tout le monde, car j'ai vu des gens avoir tout ce que j'ai tant désiré vainement et ne pas se trouver heureux. Sur la fin de ma carrière, le bon Dieu m'a fait trouver une consolation inespérée en me donnant un ami tel que toi. Aussi n'ai-je pas à me reprocher de t'avoir méconnu ou mal apprécié, mon bon Schmuck. Je t'ai donné mon cœur et toutes mes forces aimantes. Ne pleure pas, Schmuck, ou je me tairai. Et c'est si doux pour moi de te parler de nous. Si je t'avais écouté, je vivrais. J'aurais quitté le monde et mes habitudes, et je n'y aurais pas reçu des blessures mortelles. Enfin, je ne veux m'occuper que de toi. Tu as tort. Ne me contrarie pas, écoute-moi, cher ami. Tu as la naïveté, la candeur d'un enfant de 6 ans qui n'aurait jamais quitté sa mère. C'est bien respectable. Il me semble que Dieu doit prendre soin lui-même des êtres qui te ressemblent. Cependant, les hommes sont si méchants que je dois te prémunir contre eux. Tu vas donc perdre ta noble confiance, ta sainte crédulité, cette grâce des âmes pures qui n'appartient qu'aux gens de génie et aux cœurs comme le tien. Tu vas voir bientôt Madame Cibot, qui nous a bien observés par l'ouverture de la porte entrebâillée, venir prendre ce faux testament. Je présume que la coquine fera cette expédition ce matin, quand elle te croira endormie. Écoute-moi bien, et suis mes instructions à la lettre. M'entends-tu ? Demanda le malade. Schmuck, accablé de douleur, saisi par une affreuse palpitation, avait laissé aller sa tête sur le dos du fauteuil et paraissait évanoui. « Oui, je t'entends. Mais comme si tu étais à 200 pas de moi, il me semble que je m'enfonce dans la tombe avec toi. » dit l'Allemand que la douleur écrasait. Il se rapprocha de Ponce et il lui prit une main qu'il mit entre ses deux mains, et il fit ainsi mentalement une fervente prière. Que marmottes-tu là en allemand? J'ai prié Dieu de nous appeler à lui ensemble, répondit-il simplement après avoir fini sa prière. Ponce se pencha péniblement, car il souffrait au foie des douleurs intolérables. Il put se baisser jusqu'à Schmuck, et il le baisa sur le front, en épanchant son âme comme une bénédiction sur cet être comparable à l'agneau qui repose aux pieds de Dieu. « Voyons, écoute-moi, mon bon Schmuck. Il faut obéir aux mourants. »«
J'ai goûte. » »«
On communique de ta chambre dans la mienne par la petite porte de ton alcôve, qui donne dans l'un des cabinets de la mienne. »«
Oui, mais c'est encombré de tableaux. » »«
Tu vas dégager cette porte à l'instant, sans faire trop de bruit. »«
Oui. » »«
Débarrasse le passage des deux côtés, chez toi comme chez moi. » Puis tu laisseras la tienne entrebâillée. Quand la Cibot viendra te remplacer près de moi, elle est capable d'arriver ce matin 1 heure plus tôt. Tu t'en iras, comme à l'ordinaire, dormir, et tu paraîtras bien fatigué. Tâche d'avoir l'air endormi. Dès qu'elle se sera mise dans son fauteuil, passe par ta porte et reste en observation, là, en entr'ouvrant le petit rideau de mousseline de cette porte vitrée. Et regarde bien ce qui se passera. Tu comprends?
Je t'ai gombri. Tu crois que la scélérate priera le test d'amant?
Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais je suis sûre que tu ne la prendras plus pour un ange après. Maintenant, fais-moi de la musique. Réjouis-moi par quelqu'une de tes improvisations. Ça t'occupera. Tu perdras tes idées noires, et tu me rempliras cette triste nuit par tes poèmes. Schmuck se mit au piano. Sur ce terrain, et au bout de quelques instants, l'inspiration musicale, excitée par le tremblement de la douleur et l'irritation qu'elle lui causait, emporta le bon Allemand, selon son habitude, au-delà des mondes. Il trouva des thèmes sublimes sur lesquels il broda des caprices exécutés, tantôt avec la douleur et la perfection raphaélesque de Chopin, tantôt avec la fougue et le grandiose dantesque de Liszt, les deux organisations musicales qui se rapprochent le plus de celles de Paganini. L'exécution, arrivée à ce degré de perfection, met en apparence l'exécutant à la hauteur du poète. Il est au compositeur ce que l'acteur est à l'auteur, un divin traducteur de choses divines. Mais dans cette nuit où Schmuck fit entendre par avance à Ponce les concerts du paradis,
cette délicieuse musique qui fait tomber des mains de Sainte-Cécile ses instruments. Il fut à la fois Beethoven et Paganini, le créateur et l'interprète. Intarissable comme le rossignol, sublime comme le ciel sous lequel il chante, varié, feuillu comme la forêt qui l'emplit de ses roulades, il se surpassa et plongea le vieux musicien qui l'écoutait dans l'extase que Raphaël a peinte et qu'on va voir à Bologne. Cette poésie fut interrompue par une affreuse sonnerie. La bonne des locataires du premier étage vint prier Schmuck, de la part de ses maîtres, de finir ce sabbat. Madame, monsieur et mademoiselle Chapoulot étaient éveillés, ne pouvaient plus se rendormir, et faisaient observer que la journée était assez longue pour répéter les musiques de théâtre, et que, dans une maison du Marais, on ne devait pas pianoter pendant la nuit. Il était environ 3 heures du matin. À 3h30, selon les prévisions de Ponce, qui semblait avoir entendu la conférence de Fraisier et de Lassibaud, la portière se montra. Le malade jeta sur Schmuck un regard d'intelligence qui signifiait « N'ai-je pas bien deviné ?» et il se mit dans la position d'un homme qui dort profondément.